12h30, 13h, le journal, c'est avec vous Jean-Sébastien Soldaini, bonjour.
Bonjour Marlène, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. À la une de l'actualité de ce dimanche, un incendie en plein cœur de la station de ski de Courchevel. 2 morts et 4 blessés graves, le feu est parti dans un bâtiment qui hébergeait des saisonniers. Nous rejoindrons sur place notre envoyé spécial dans un instant. Les géants du numérique bientôt taxés en France, au maximum 5% de leur chiffre d'affaires, annonce faite par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, confirmée sur notre antenne par le porte-parole du gouvernement. Les gilets jaunes sont restés mobilisés hier. Participation stable, 84 000 personnes. De nouveaux rassemblements sont en cours. Nous serons au pied de la tour Eiffel avec les femmes gilets jaunes. Donald Trump tente une concession pour faire cesser le shutdown aux États-Unis, mais l'opposition démocrate la refuse. En fin de journal, un point complet sur les sports. L'équipe de France féminine de foot entame 2019 de la plus belle des façons. Chez les hommes en Ligue 1, le PSG écrase Guingamp 9-0. Enfin, la météo, de la grisaille un peu partout, sauf sur le littoral atlantique.
Europe 1.
L'information de la journée, c'est donc cet incendie en plein cœur de la très chic station de Courchevel. Le feu s'est déclaré dans un immeuble en bois des années 70 où étaient logés des saisonniers. 2 personnes sont mortes, 21 sont blessées, dont 4 gravement. Rémi Pierre, vous êtes sur place pour Europe 1. L'incendie est maintenant maîtrisé.
Ouais, il y a simplement encore quelques fumerolles qui s'échappent de ce chalet dont les 2e et 3e étages ont été complètement détruits dans l'incendie. Le feu s'est donc déclaré vers 4h30 du matin dans l'hôtel voisin, touché lui aussi par les flammes. Pascal et Vanessa, un couple de Lyonnais qui passe le week-end dans la station, est brusquement réveillé par l'alarme incendie.
Ça fait qu'on est vite descendu et on a vu les flammes sur les appartements d'à côté. Et en rien de temps, quoi, en 10 minutes, le feu s'est propagé sur la nôtre, sur le côté. Il y avait des gens à hauteur des balcons qu'il a fallu aider à descendre. J'ai réussi à faire descendre une fille aussi et... Mais c'est des moments durs.
On a vu un monsieur qui est tombé du 2e étage. Les gens l'ont vite aidé. Les pompiers sont venus, ils l'ont allongé devant nous avec les couvertures et tout.
Alors justement, 2 des 4 blessés graves ont été touchés en sautant des balcons pour échapper aux flammes. Les 2 autres ont été intoxiqués et souffrent de brûlures, mais leurs jours ne sont pas en danger. Quant aux causes de cet incendie, c'est encore trop tôt pour se prononcer, selon le sous-préfet d'Albertville, Éric Loiseau.
Tout ça nécessite un travail d'enquête minutieux, qui ne peut être diligenté que dans un contexte refroidi, puisque nous sommes encore dans un bâtiment chaud, et cela sera la mission des gendarmes.
Une seule certitude, le bâtiment, un ancien hôtel, datait des années 70 et un permis de construire pour des travaux de réhabilitation venait d'être déposé en décembre.
Rémi Pierre en ligne de Courchevel pour Europe 1. Dans les Alpes suisses cette fois, un Français a été tué, 2 autres blessés dans une avalanche après de fortes chutes de neige.
Europe 1, 12h33.
L'annonce était attendue et réclamée depuis maintenant plusieurs semaines. Une taxe sur les profits des géants du numérique comme les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et tant d'autres. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'a annoncé à nos confrères du journal du dimanche. Le prélèvement toucherait toutes les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros au niveau mondial, 25 millions d'euros en France. Ce sera présenté en Conseil des ministres d'ici la fin février. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, estime que c'est tout à fait faisable.
Vous pouvez compter sur le professionnalisme des agents de Bercy. Tous les effets d'éviction de chiffre d'affaires ou d'optimisation qui serait mise en place. Notre administration fiscale est parfaitement armée pour pouvoir y répondre efficacement. C'est ce qu'attendent de nous les Français et c'est aussi la juste part que doivent payer des entreprises numériques qui sont essentielles à la vie économique d'un pays. Mais lorsqu'on est dans un pays installé, eh bien on y paye des impôts. C'est la règle. Ça permettra de rapporter 500 millions d'euros. C'est autant d'impôts en moins qui pèseront sur les Français et c'est aussi autant d'argent qui permettra d'avoir des politiques publiques plus redistributrices. On le fera en France, mais que l'objectif, c'est d'arriver en Europe à avoir un consensus au sein des 27 pour éviter à nouveau les effets d'évasion et d'éviction.
Benjamin Griveaux était l'invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Il a notamment reconnu des dysfonctionnements à l'Élysée et ailleurs dans l'affaire Benalla, dysfonctionnements insupportables et incompréhensibles pour les Français, a-t-il dit. Il demande aussi aux Gilets jaunes de participer aux réunions publiques du grand débat, des Gilets jaunes qui sont restés mobilisés hier. Participation stable, 84 000 personnes dans les rues, 80 000 membres des forces de l'ordre. Aujourd'hui, différents rassemblements sont prévus à Douai ou encore à Toulouse et à Paris. Marion Jorte, vous vous trouvez au pied de la Tour Eiffel pour Europe 1 en compagnie des femmes gilets jaunes, mais là la mobilisation est plus faible.
Oui, un petit rassemblement, il faut le dire. Il y a ici, devant la Tour Eiffel, 100 de femmes, toutes venues de régions différentes. Écoutez, Florie, elle a 2 enfants en bas âge, elle vient de l'Eure. Elle a fait plus d'une heure de voiture pour être ici aujourd'hui. Mais elle tenait à être présente, car pour elle, la parole des femmes en tant que mère et leur ras-le-bol a plus de chances d'être entendue.
Entre femmes, c'est on est maman, on est sœur, on est tata, on est marraine, on est tout. On va peut-être un peu plus entendu parce que bah, mine de rien, nous aussi, on assume tout derrière. Donc on vit déjà dans un monde cher et dur. Et j'ai pas envie, moi, que mes enfants soient dans une vie horrible et qu'ils doivent souffrir pour avoir de belles choses.
Voilà, et parmi ces femmes venues ce matin, il y a aussi des gilets jaunes marcheurs. Ils ont fait plus de 800 km à pied depuis Arles pour porter les revendications des gilets jaunes, notamment le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Angélique est l'une de ces marcheuses et gilet jaune sur le dos et bouquet de roses jaunes à la main, couleur symbolique de l'amitié. Elle s'apprête à remettre ce flambeau à toutes ces femmes venues à Paris.
Les femmes, elles sont mères. La colère d'une maman est beaucoup... des lionnes. Je dirais que c'est des lionnes. Voilà, des lionnes. Là, nous, on est tous des éponges. Nos cinq marcheurs, on a entendu leur tristesse, leur colère et leur espoir que ça marche vraiment. Voilà.
Et voilà Jean-Sébastien, leur cortège vient à l'instant de s'élancer direction Place de la République.
Marion Jort en direct de la Tour Eiffel pour Europe 1. Le député La République En Marche, Mathieu Orphelin, a décidé hier soir de suspendre ses discussions avec les Gilets jaunes d'Angers. Il souhaite symboliquement protester contre les violences de la manifestation angevine d'hier. La préfecture et la mairie étaient visées. Pour lui, la seule solution, c'est de tenir ses engagements et le dialogue grâce au grand débat.
Il y a un certain nombre d'engagements qui avaient été pris par les Gilets jaunes, notamment de rester sur les grands boulevards qui entourent l'hypercentre-ville, ne pas venir en hypercentre. Également de se désolidariser des casseurs dont on savait qu'ils venaient à plusieurs dizaines, voire 100 ou 200 pour s'affronter avec les forces de police et pour mettre du désordre dans la ville. Et ben, malheureusement, trop peu de gilets jaunes se sont désolidarisés de ces débuts de violence et sont restés là. Je regrette effectivement qu'il n'y ait pas eu une plus grande désolidarisation des gilets jaunes. C'est dans le dialogue, notamment dans le cadre du grand débat, qu'on trouvera les solutions et évidemment pas dans cette violence auquel nous ne sommes pas habitués à Angers, terre de dialogue, terre de modération.
Mathieu Orphelin, député La République En Marche. À suivre, aux États-Unis, Donald Trump tente un coup pour mettre fin au shutdown, immédiatement retoqué par les démocrates.
La suite du journal, Jean-Sébastien Soldaini.
Donald Trump a fait monter le suspense hier soir en promettant une mesure forte pour mettre fin au shutdown, le blocage de l'administration fédérale américaine depuis 29 jours, c'est du jamais vu. Alors pour tenter de s'en sortir, le président américain a proposé un deal aux démocrates, accorder un statut temporaire pour le million de migrants sur le sol américain. En échange, ils acceptent le mur à la frontière avec le Mexique. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à Washington. Donald Trump a tenté un coup, mais ses opposants démocrates ne se laissent pas faire.
Oui, Donald Trump tente un numéro d'équilibriste. Il ne renonce pas au mur sous la pression de sa base, mais il offre des concessions aux démocrates concernant les migrants. Il est maintenant déterminé à résoudre la crise qui s'enlise. Hier soir, à la Maison-Blanche, il s'est posé en rassembleur.
Je suis là aujourd'hui pour sortir de l'impasse et offrir au Congrès un moyen de mettre fin à la paralysie du gouvernement tout en résolvant la crise à la frontière sud. Si nous réussissons cet effort, nous aurons alors les meilleures chances d'aboutir enfin à une réforme de l'immigration bipartisane.
Trump réclame toujours une barrière physique à la frontière, mais il propose d'étendre de 3 ans les statuts de près d'un million de migrants, ceux des Dreamers, ces jeunes sans-papiers arrivés enfants aux États-Unis, et ceux des immigrés qui bénéficient d'un asile temporaire. Un compromis de bon sens, selon lui, sauf que les démocrates ont déjà prévenu qu'ils rejetteraient cette proposition. Ils ne veulent tout simplement pas financer son mur, quelle qu'en soit la forme. Le shutdown risque donc bien d'entamer sa 5e semaine.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 à Washington. Au Mexique, le bilan de l'explosion d'un oléoduc s'est encore alourdi. Les autorités font état de 73 morts et 74 blessés. L'explosion s'est produite hier alors que des dizaines de personnes s'étaient massées pour profiter d'une fuite de carburant. En Syrie, une explosion a secoué la capitale Damas ce matin à l'heure de pointe. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de morts et de blessés. Sans en dire plus, les autorités évoquent un attentat contre un bureau du renseignement militaire.
12h41, Jean-Sébastien Soldaini.
Un message codé donné au comptoir d'un bar et c'est la sécurité de l'établissement qui vient à la rescousse. Un message codé caché derrière le nom d'un cocktail fictif, l'œil Dorus. Si ces mots sont prononcés par une cliente, c'est qu'elle se sent harcelée, en danger. Dispositif mis en place dans un bar de Rennes où s'est rendu François Coulon pour Europe 1.
Les premiers cas de harcèlement ont été observés pendant la soirée d'Halloween. Des faits similaires se sont reproduits quelques semaines plus tard. C'est ce qui a donné l'idée aux habitués du Meltdown de créer un faux cocktail en forme de SOS, Franck Illion.
Un cocktail fictif qui veut dire en gros, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Un nom de code quoi. La personne vient au bar, demande un œil d'Horus. Donc là, les barman vont réagir. On peut faire sortir la personne par derrière s'il faut, discrètement, pour pas être suivi notamment par exemple. On peut même la raccompagner s'il faut.
Le but est d'éviter discrètement la confrontation entre le harceleur et la femme harcelée, Estelle, 21 ans.
Très bonne idée, parce qu'on peut avoir peur de déranger déjà les barman. On peut se dire, j'ai pas envie de créer des embrouilles, ce genre de choses, sachant surtout si elle connaît pas l'établissement. Donc le fait qu'il y ait un nom de code, ça permet vraiment de pouvoir avertir. Il y a un échappatoire en cas de situation dérangeante. On n'a pas forcément envie d'attirer l'attention sur nous aussi. Quand il y a ce genre de situation, on n'a pas envie forcément que tout le monde soit au courant. C'est une très bonne idée d'avoir mis ça en place.
L'œil d'Horus est un symbole de protection qui vient de l'Égypte antique. Le Meltdown en fait la promo pour un effet dissuasif. Rennes, François Coulon, Europe.
Le journal des sports.
Les sports avec l'équipe de France féminine de football qui débute l'année de la meilleure des façons. À 4 mois et demi de la Coupe du Monde qu'elles joueront à domicile, les Bleues ont battu hier soir au Havre en match de préparation les Américaines, triple championnes du monde et quadruple championnes olympiques. Près de 23 000 supporters présents au stade Océane, plein à craquer, mais la capitaine des Bleues, Amandine Henry, ne veut pas s'enflammer après cette victoire 3-1 contre les États-Unis.
Elles ont leur histoire, nous on est en train d'écrire la nôtre. On fait de très bons matchs de préparation, mais on a tout à prouver en compétition. Ça nous permet d'avoir un avant-goût, je pense, que de la Coupe du Monde. On sait que voilà, on sera soutenu, et puis voilà, sur les moments de fatigue, on peut compter sur le public, et puis ça nous permet de faire les efforts. Et je pense que c'est dans la tête.
Amandine Henry au micro Europe 1 de Cyril Delamorinerie. Le football et la Ligue 1 avec ce score de 9-0 infligé hier par les Parisiens aux Guingampais. Le PSG n'avait semble-t-il pas digéré son élimination en Coupe de la Ligue il y a 10 jours par cette même équipe de Guingamp. Et lui a fait savoir avec ce score fleuve. L'autre humiliation de la soirée, c'est celle de Monaco qui perd 5-1. Face à Strasbourg. Cette 21e journée de Ligue 1 se termine aujourd'hui avec à 15h Rennes qui reçoit Montpellier, puis à 17h Angers Nantes et Caen Marseille. L'OM qui n'a plus gagné le moindre match depuis 2 mois est actuellement 9e du classement, mais son entraîneur Rudy Garcia préfère positiver.
Quand tout roule, on préfère évidemment, ça veut dire que son club est bien classé, fait des bons résultats, va loin dans les coupes d'Europe ou nationales. Mais la vérité du métier est plus dans ce que je suis en train de vivre en ce moment, parce que y a plein de choses positives et ça permet de progresser surtout pour l'avenir. C'est des choses qui servent, voilà.
Rudy Garcia avec Yann Théroux pour Europe 1. La journée se terminera à 21h avec le derby du Rhône, Saint-Étienne-Lyon à suivre dans Europe 1 Sport présenté par Lionel Rosso. Le tennis, l'Open d'Australie. Parmi les résultats du jour, on retiendra les éliminations de la Russe Maria Sharapova et de l'Allemande Angélique Kerber dès les 8e de finale. Ça passe en revanche pour Rafael Nadal et pour le jeune américain Frances Tiafoe qui sera l'adversaire de Nadal en quart de finale. Et puis le championnat du monde de handball en Allemagne après avoir battu l'Espagne hier. L'équipe de France joue ce soir son 2e match du tour principal contre l'Islande, déjà éliminée de la compétition. En cas de victoire, les Bleus auraient fait un très grand pas vers les demi-finales.
Europe 1, 12h45.
Il nous reste à voir ce que nous réserve la météo de ce dimanche. Le ciel se dégage par endroits, Valérie Darmon, et notamment sur l'ouest.
Absolument, Jean-Sébastien. De l'Aquitaine à la Bretagne et Normandie, en dépit tout juste de quelques averses côtières, le ciel est en train de redevenir variable et vous profiterez d'une très belle luminosité. Les régions allant de la Champagne au bassin parisien, Centre et Limousin, n'ont pas cette chance. Sans soleil, ni éclaircie, mais pas de pluie non plus jusqu'à ce soir. Le ciel est très nuageux sur les Alpes du Nord et le pourtour méditerranéen, avec des averses du Roussillon aux côtes varoises ainsi que sur le nord de la Corse. Et puis il neige toujours un petit peu entre le sud de la Bourgogne, l'Alsace et le Jura. Il fait relativement beau des Pyrénées-Orientales au Lyonnais. Les maximales, toujours entre 2 à Nancy et 13 degrés à Bastia. À Paris par exemple, il fera 5 degrés cet après-midi et à Lyon 9. Demain, retour du beau temps au nord et dans le sud-est. Grisouille entre l'Aquitaine et la Franche-Comté.
Voilà, la grisouille. Merci Valérie Darmon. Dans un instant, Yves Saint-Laurent aux enchères. Deux collectionneuses de luxe dispersent leur garde-robe.
14h48, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous, Jean-Sébastien Soldaini et votre invité. Vous recevez la journaliste et biographe Laurence Benahim.
Bonjour Laurence Benahim.
Bonjour.
YSL, trois initiales qui ont marqué la haute couture, l'élégance, trois lettres entremêlées pour un logo, une griffe, celle d'Yves Saint-Laurent, dont des robes se retrouvent cette semaine dans deux ventes aux enchères assez exceptionnelles. La collection de la mécène libanaise Mouna Ayoub, nous allons y revenir dans un instant. Et puis celle portée par Catherine Deneuve, mise en vente jeudi chez Christie's à Paris. Deneuve Saint-Laurent, c'est une relation très particulière.
C'est très particulier parce que c'est en fait une relation de fidélité, de confiance qui a commencé en 1965 et on le voit à travers ces 340 lots vendus chez Christie's qui se poursuit jusqu'à la fin, jusqu'au bout et qui est encore vivante aujourd'hui. En fait, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oui.
C'était une relation d'amitié plus que du marketing. Deneuve n'achetait pas ses robes à Saint-Laurent, elle n'était pas rémunérée pour ça, c'est vrai ?
Écoutez, je ne connais pas je n'ai pas de point de vue et je n'ai pas d'informations sur cela. Mais je sais qu'il y a une véritable histoire d'amitié, de confiance. Et en fond, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces robes, ces tailleurs, ces smokings ont été portés et qu'elle a vécu dedans. Ce qui est intéressant, on a le sentiment qu'elle est vraiment en confiance, qu'elle n'a jamais froid, jamais chaud dedans, que quelque chose, elle parle d'armure légère, et je crois que c'est ce qui est magnifique, c'est la confiance que peut donner un couturier à une femme.
Est-ce qu'elle l'inspirait vraiment autant que Loulou de la Falaise, Betty Catrou, ou bien est-ce qu'elle n'était au final qu'une ambassadrice du style Saint-Laurent ?
Je crois que c'est une ambassadrice, en même temps, elle est très liée à l'imaginaire d'Yves Saint-Laurent. On le voit bien sûr à travers un film Capital qui est Belle de jour. Elle a fixé, Catherine Deneuve a fixé l'image de la femme, de cette femme, de cette Parisienne et à la fois de cette femme française indissociable de l'image d'Yves Saint-Laurent.
Et ce smoking justement dont vous parliez tout à l'heure, ouais. C'est le smoking, c'est au départ c'est quand même quelque chose de très masculin, mais c'est la féminité absolue de Neuf dans ses smokings.
Ben, c'est à la fois il et elle, c'est le jour, la nuit, c'est le noir dont il disait qu'il était un refuge. Et c'est une façon pour Yves Saint-Laurent, puisqu'il le reprend de saison en saison, de tracer ses lignes et d'échapper à la tyrannie de l'immédiateté.
Décrivez-nous un peu cette vente aux enchères. Est-ce qu'il y a des œuvres vraiment exceptionnelles de Saint-Laurent ?
Alors, ce qui me frappe, c'est d'abord l'importance de cette collection. Il y a près de 340 lots. Et à la fois des tailleurs, des smokings, des robes. C'est vrai qu'il y a, alors, il y a des pièces qui intéresseront plus particulièrement les musées. Je pense à une robe qui était une robe d'hôtesse de 1965, qui est une sorte de prémisse de Rive Gauche, puisque c'était dans la boutique de la rue Spontini au tout début. Il y a une robe de 69 qui est très importante. Et puis, il y a à la fois plein de vêtements. Bon, il y a une ceinture, une sorte de ceinture Rive Gauche papillon que je trouve incroyable puisqu'on la voit portée par Catherine Deneuve un jour qu'elle est avec Marcello Mastroianni. Et en même temps, elle a été aussi une sorte de blason pour Yves Saint-Laurent. En fait, il y a plein de vêtements, de choses qui vous parlent toujours d'Yves Saint-Laurent. Tout le temps, c'est reconnaissable. C'est ça qui est assez intéressant.
Et ce sont des vêtements qui semblent aussi avoir rythmé la carrière de Catherine Deneuve, parce qu'il y a notamment cet ensemble au moment où elle rencontre Alfred Hitchcock.
Tout à fait. Il y a cette fameuse robe perlée tout en broderie de cristal. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien le trait d'Yves Saint-Laurent, en fait, épouse et sent marquer le corps de Catherine Deneuve. Et donc, on sent qu'il y a beaucoup d'amour parce que, effectivement, il n'est pas là pour la mettre à nu, il est là pour lui donner, encore une fois, confiance et pour faire apparaître sa personnalité sans jamais marquer quoi que ce soit. Vous savez, il y a des couturiers qui ferrent les femmes avec des carcans ou d'autres qui n'ont pas de point de vue, qui les condamnent ou qui les emprisonnent avec des logos et d'autres qui ont à la fois une ligne et en même temps qui mettent en valeur les femmes en s'effaçant derrière elles. Et ça, c'est ce qu'on appelle la grâce, je crois.
Quand on a ça dans sa garde-robe, pourquoi on s'en sépare? Pourquoi Catherine Deneuve se sépare de ses robes?
Je pense qu'il lui en reste. Et puis, je pense que peut-être elle a d'autres projets. C'est vrai que c'est un petit peu troublant de la voir se séparer de tout cela. Mais en même temps, c'est troublant de dire qu'elle a conservé tout cela aussi dans des conditions assez admirables. Et qu'au fond, peut-être que c'est bien parce que la vraie vocation d'une robe, d'un vêtement, c'est de vivre sur le corps d'une femme et pas être peut-être... Bien sûr, on parle de patrimonialisation de la mode. Et sur cela, je trouve que c'est parfait. Mais la mode n'est pas faite pour être... enfermée dans des boîtes. Elle est là aussi pour respirer, c'est ce que nous disent ces robes.
C'est plus une garde-robe qu'une collection, c'était plutôt des vêtements de jour, comme c'est décrit.
Il y a à la fois des vêtements de jour et de soir, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, parce que ça peut intéresser à la fois des conservateurs, de musées, des gens qui collectionnent. On voit que la mode au musée a pris une importance capitale ces dernières années, et en même temps, ces vêtements peuvent être aussi portés, parce que ils n'ont certains en fait, bien sûr certains sont marqués, je pense à des tailleurs des années 80 qui sont, mais d'autres finalement ont l'air de ne pas avoir pris une ride, et c'est une sorte de revanche peut-être sur
est-ce
le
que,
temps.
Est-ce que cette vente aurait plu à Pierre Berger, le compagnon d'Yves Saint Laurent? On sait qu'il n'aimait pas trop que les créations de son compagnon soient dispersées aux 80.
Oui, mais il a été quand même le premier à disperser bien d'autres choses et autrement plus coûteuses.
La veille de la vente des robes de Catherine Deneuve, il y aura une autre vente aux enchères. C'est encore des créations d'Yves Saint Laurent. Cette fois chez Cornette de Saint-Cyr, celle achetée par la mécène libanaise Mouna Ayoub. C'est totalement différent. On voit que les prix sont beaucoup plus élevés. 30 000 euros parfois pour les robes de Mouna Ayoub, alors que 800, 1200 euros.
On verra
pour...
en fait, finalement, le prix, l'estimation basse n'a pas d'importance, puisque on le voit, il y a des choses qui sont proposées avec des... Il faut se méfier des estimations basses, parce que les choses peuvent s'envoler très vite. Dans le cas de Mouna Ayoub, il y a des pièces aussi très importantes, qui, comme la veste brodée iris, comme la veste hommage à ma maison 1990, qui sont d'une certaine manière assez iconiques. Il y a aussi beaucoup d'accessoires, et au fond, on le verra le 25, on fera la somme de tout ça. On verra ce qui a fait le plus de prix. Il y a des choses qui ont des valeurs plus sentimentales aussi.
C'est-à-dire que pour Mouna Ayoub, c'est plus des robes de musée, alors que pour celle de Catherine Deneuve, ce sont des robes qui tiennent plus par le fait qu'elles ont été portées par
Catherine
Deneuve.
Elles ont été portées, je pense qu'elles ont été aussi portées par Mouna Ayoub. Chez Mouna Ayoub, il y a aussi beaucoup d'accessoires. En tout cas, c'est intéressant parce que tout ça se passe pendant la semaine de la haute couture. Et j'aime bien aussi l'idée que, encore une fois, que les robes vivent, que les robes respirent, qu'elles touchent un public, et que c'est peut-être ça la haute couture, la vraie nature de la haute couture, c'est d'habiller des gestes, d'habiller des moments et de provoquer des rencontres.
Merci Laurence Benahim, auteur de la biographie Yves Saint Laurent, tout simplement, publiée chez Grasset. Vous donnerez aussi une conférence chez Christie's en marge de cette vente. Ce sera mercredi prochain. À suivre dès 13h, Sophie Larmoyer rouvre ses carnets du monde. Bonjour Sophie, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Bonjour Jean-Sébastien, bonjour à tous. Alors on va reparler du Brexit dans les carnets et de ce sentiment d'incertitude qui domine depuis que les députés britanniques ont dit non à l'accord négocié depuis 18 mois entre ceux qui font des stocks de nourriture ou de matériel outre-Manche ou ceux qui en sont réduits à échafauder des hypothèses à Bruxelles. Et puis autre sujet, on parle beaucoup de la désertification des campagnes, de l'abandon des zones rurales. Eh bien vous allez entendre que certains ont trouvé des solutions pour faire revenir du monde. On va aller se balader en Italie et au Japon.
Merci Sophie, à tout de suite.
Et dans un instant Jean-Sébastien, ce sera le rappel des titres de l'info.